Hein? Je vais te rapprocher ça un peu. C'est bon comme ça? Nickel. On a parlé de la Sainte Cène, là, de ce temps où on vient devant la croix, où on est face à nos meurtrissures, face à nos blessures, face à nos torsions. Et la contemplation de cette croix, la contemplation de ce que Dieu a fait sur cette croix, ça nous guérit, ça nous restaure. Mais c'est le souvenir de cette croix, c'est la contemplation de cette croix qui nous mène à prendre conscience et à changer. Et ça m'interpelle parce que c'est ça dont je voudrais vous parler. Parce que moi, cette croix, elle me pousse à me remettre en question, à remettre en question ma façon de vivre, ma façon de diriger ma vie, mon quotidien, mes objectifs, que ce soit au niveau de mes relations, que ce soit au niveau de ma profession, que ce soit au niveau de ma façon de me comporter avec les autres. Cette croix, et plus largement la Bible, me pousse à me remettre en question. Et avec ce sujet en tête, l'apôtre Paul, il m'interpelle beaucoup par ses textes. Vous me direz, c'est pas une surprise parce qu'il a composé à peu près la moitié du Nouveau Testament. Mais il y a un texte en particulier qui m'interpelle et c'est dans Philippiens 1, les versets 20. Il faut que je l'allume, ça ira mieux. Hein. Les versets 20 à 26. Le contexte, c'est le suivant. L'apôtre Paul, il est en prison, à Rome. Il va comparaître devant l'empereur, mais il est dans cette prison à cause de l'évangile. Et dans cette prison, il rédige des lettres, et notamment cette lettre à l'église de Philippe, pour les encourager et donner de ses nouvelles. Et au verset 20, il dit ceci. « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. » Une des explications qu'on pourrait donner à un tel discours, c'est que Paul, le grand apôtre Paul, est en prison et ça ne doit pas être facile à vivre comme situation. On pourrait se dire, il essaye de se rassurer et puis il essaye de rassurer les autres. Comme nos leaders politiques, hein, on ne va pas perdre la face. Jusqu'au dernier instant, on va montrer que tout est sous contrôle. On va essayer de rassurer le peuple, on va essayer de rassurer les gens qui nous entourent, ceux qu'on a influencés, ceux qui sont là, parce que c'est nous qui avons implanté quelque chose, et c'est le cas de Paul. Mais je crois pas que ce soit le cas. Au travers de ce qu'il a écrit, au travers de ce qu'il a vécu, je crois qu'on peut avoir cette conviction que c'est pas juste pour rassurer et puis pour ne pas perdre la face. Je crois que c'est vraiment parce qu'il a été un outil dans la main de Dieu, un outil excellent. Et c'est exactement ce qu'il dit. Pas seulement parce qu'il sait que c'est une belle théorie, mais parce qu'il le vit, parce qu'il en est convaincu. Peu importe les circonstances. Plus tard, dans le chapitre 4, il dira que la paix de Dieu surpasse tout, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il dira également que peu importe s'il est dans la richesse ou dans la pauvreté, il a appris à être satisfait dans la richesse, dans la pauvreté. J'extrapole un peu et je peux dire, je pense qu'il est satisfait dans la souffrance, dans cette circonstance actuelle où il est privé de sa liberté. Il est satisfait. Et cette satisfaction, elle lui permet d'affirmer ces choses. Et le fait d'affirmer ces choses, je crois que ça le satisfait aussi. Je vais y revenir. Et ça me frappe. Les circonstances défavorables dans lesquelles il se trouve ne semblent pas déterminer ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est ce qu'il pense qui détermine ce qu'il fait. Comment est-ce que c'est possible que dans une circonstance telle que la sienne, il soit aussi plein d'assurance, plein de satisfaction? Et je rapporte ça à moi, à nous. Quelle est l'influence des circonstances qu'on vit sur notre ressenti, sur notre façon de percevoir les choses? Est-ce que c'est elle qui oriente mes objectifs? Est-ce que j'aimerais un boulot avec un énorme salaire pour être sûr que j'aurai à manquer de rien et que j'aurai pas peur de bien finir le mois ou de mal finir le mois? Est-ce que je vais essayer de m'attacher à tous les gens qui m'entourent pour être sûr d'être apprécié, d'être reconnu, d'être valorisé? Est-ce que c'est ces circonstances-là qui m'influencent ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et un verset dans ce texte qui m'a particulièrement frappé, parce que moi j'aime bien j'aime bien un peu ce qui est brutal. Ça me remet en question, ça me fait du bien. C'est le verset 21. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Ça n'a pas de sens. Humainement, ça n'a pas de sens. Pour nous, la mort, c'est la fin. C'est la fin de notre existence. C'est la fin de tout ce qu'on a connu depuis le jour où on est né et tout ce qu'on a fait. Après la mort, on ne peut plus essayer de plaire aux autres. On ne peut plus essayer de se faire du bien, de faire du bien aux autres, d'aimer, de vivre, avoir du plaisir. C'est terminé. Mais dans la foi chrétienne, ce n'est pas le cas. On a cette vie éternelle. Et moi, ce qui m'hallucine, c'est que malgré, en dépit de cette conscience de la vie éternelle, j'ai l'impression, parfois, souvent, je ne saurais pas mettre un pourcentage là-dessus, de vivre uniquement pour cette vie ici sur terre. Et ça, ce n'est pas influencé par ce que je pense, parce que ce que je pense, c'est ma vie sur terre, elle se termine pas ici. Enfin, ma vie sur terre se termine, mais j'ai la vie éternelle. Non, c'est ce que je fais, c'est mes réactions qui me démontrent qu'en fait, je ne prends pas en considération la vie éternelle. Petit exemple pratique, si je suis face à une personne à qui j'aimerais parler de l'évangile, à qui j'aimerais dire qu'en fait, sa raison de vivre, c'est Dieu, que Dieu l'aime, qu'il a donné sa vie pour lui, et qu'il a besoin de cet amour-là, est-ce que j'aurais peur de sa réaction? Est-ce que ça va me retenir d'avoir cette conversation avec elle? Ou est-ce qu'au contraire, je suis tellement convaincu, tellement habité par cette vérité que Christ m'a sauvé, que je suis comblé, satisfait en lui, que j'ai la vie éternelle avec lui? Est-ce que je suis tellement convaincu de cela que je ne vais pas avoir peur de la réaction, mais que je vais risquer la discussion? Et risquer aussi de perdre cette personne. Parce que moi, ce qui m'empêche d'en parler à mes amis non chrétiens, c'est « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Et j'aimerais que ma réflexion, ce soit plutôt « en fait, ils pourraient mourir demain. Et s'ils meurent demain, sans avoir connu qui est Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. » Pour moi, cette perspective, elle me fait peur. Et pourtant, elle n'entre pas dans ma prise de conscience quand j'ai ce genre de réflexion. Il y a un homme qui s'appelle Rick Warren aux États-Unis, un pasteur, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Une vie motivée par l'essentiel ». Et j'aime beaucoup ce livre parce que je le trouve bien écrit, c'est facile à comprendre. Et encore une fois, il commence son livre par une phrase percutante qu'on trouve généralement pas en phrase d'introduction. Et cette phrase, elle dit ça. « Tout ne tourne pas autour de vous. Votre vie a un sens qui dépasse de loin votre épanouissement personnel, votre paix intérieure ou même votre bonheur. Elle a un sens qui dépasse aussi votre famille, votre travail ou même vos rêves et vos projets les plus fous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Vous êtes né par lui et pour lui. » La première phrase, elle dit « Tout ne tourne pas autour de vous ». Ce n'est pas une formulation que j'aurais choisie pour une traduction en français, mais en même temps, c'est difficile à traduire parce que moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt « Vous n'êtes pas le centre de votre vie ». Ce n'est pas « Tout ne tourne pas autour de vous ». Non, rien ne tourne autour de nous dans la perspective de Dieu glorifié. Nous sommes faits par lui et pour lui. Nous ne sommes pas au centre de nos vies. Nous ne sommes pas... On pourrait dire « Christ est le centre de nos vies ». Mais pour moi, cette notion-là, bien qu'elle soit vraie, j'aime cette perspective de la négation, parce que j'ai l'impression que c'est différent, la façon de la considérer. Oui, Christ est le centre de nos vies. Et du coup... de façon similaire, nous ne sommes pas le centre de nos vies. Et je trouve que cette perspective est plus... elle me parle davantage. Et c'est là où j'aimerais en venir aujourd'hui. Sachant que Christ est notre vie, est notre centre, est le centre de nos vies, est la raison de vivre, et que mourir représente un gain, quel bilan est-ce que je peux tirer de ma façon de penser, de parler et de faire dans mon quotidien. Et j'aimerais aborder trois clés qui me permettent et que j'aimerais vous encourager à utiliser pour mettre Christ au centre de vos vies, de nos vies, de vivre l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait face à des difficultés financières ? Qu'est-ce qu'on fait face aux fausses informations qui circulent sur nous ? Qu'est-ce qu'on fait face à l'impression de ne pas être reconnu à notre juste valeur ? Qu'est-ce qu'on fait face à l'échec de nos études ou de quelque chose d'ordre professionnel ? Qu'est-ce qu'on fait quand on échoue à un examen ? Alors, moi, je pense souvent à un examen scolaire, mais ça peut être... Il y a plein d'examens dans la vie qui ne sont pas forcément appelés examens, mais c'est des examens, c'est des tests. Qu'est-ce qu'on fait face à toutes ces circonstances qui viennent remuer nos fondements, notre zone de confort, ce qu'on croit. Le premier aspect que j'aimerais aborder, c'est celui de cultiver la mort à soi-même. Et pour illustrer ce point, j'aimerais qu'on lise le texte, l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Est-ce que Jésus exigeait vraiment de cet homme qu'il vende littéralement tous ses biens ? J'ai plutôt l'impression que il y a un verset en particulier là qui montre que Jésus le connaît. au verset 21, quand il dit « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Il l'a analysé, il a sondé la profondeur de cet homme, ce qui va au fond de son cœur. Il a vu que ses biens étaient plus importants que le reste, que ce qu'il possédait avait plus de valeur que tous ses commandements qu'il avait mis en pratique depuis qu'il était jeune. Et le problème est là. Ses biens étaient au centre de sa vie. Et ce que Jésus demande à ce moment-là, c'est de se séparer de ses biens pour se décentrer de ce qu'il possède, pour se centrer sur autre chose, sur Jésus, sur Dieu. Et se séparer de ses biens, ça revenait à abandonner tout ce qu'il avait construit, tout ce autour de quoi sa vie était construite. Imaginez, on enlève les fondements d'une maison. Elle ne tient pas. Et quand on enlève les fondements de ce qu'on s'est construit comme identité, de ce qu'on s'est construit comme personne, eh ben ça vient faire mal, ça vient déstabiliser. Et les circonstances de nos vies, elles viennent toucher ces fondements. Et c'est pour ça qu'on est remué, c'est pour ça qu'on a peur. Je généralise, d'accord, je dis pas que c'est l'unique source de tous ces ressentis, hein. Et on réagit donc de la sorte, comme ce jeune homme riche. Les biens qu'on a, le confort dans lequel nous vivons, il est important pour nous. Je me réjouis parfois tellement de passer du bon temps avec des amis autour d'un film, d'un café, d'une bière, de sortir, de faire une activité, d'aller au tobogganing, à l'aisin, je dis n'importe quoi, hein. Et, oui, clairement. Non, le Tobogganing Park de Lausanne ne m'a pas demandé de dire ça pour vous inciter à aller au Tobogganing. Merci Thierry. et c'est des bonnes choses. Mais ça m'est arrivé tout à coup que quelqu'un vienne et propose d'aller par exemple à Lausanne, dans les rues, et puis essayer de se mettre à disposition de Dieu pour prier pour les malades, pour aller à la rencontre des gens. Et moi, ça me dérange. Parce que j'aimerais faire ce que j'ai, moi, envie de faire. J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. J'ai pas envie de me mettre dans cette situation où je ne sais pas ce qui va se passer, où j'ignore ce que les gens vont dire. Je préfère m'éclater dans une bouée, à descendre une piste gelée, avec des amis, à rigoler des gens que je connais, des gens à qui je fais confiance, des gens qui ne me jugeront pas, des gens avec qui on passera du bon temps. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du bon temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se ressourcer ou prendre du temps pour être avec ses amis. C'est très bien. Ça édifie, ça ressource, ça fait du bien, c'est excellent. Cependant, il arrive que ce que je désire dans mon cœur cherche à mettre en avant ce que souhaite ma nature humaine, celle que j'aimerais justement voir disparaître pour laisser place à ce que Christ m'a donné sur cette croix. Tout comme ce jeune homme riche, nous sommes prêts à donner beaucoup de choses. Venir à l'église, lire sa Bible tous les jours, prier, faire un effort avec nos collègues de travail ou les gens qui nous entourent dans la rue pour être serviable, pour être cordial. Mais Jésus, il a mis le doigt sur quelque chose de plus profond. Il a regardé cet homme, il l'a aimé, il a vu ce qu'il y avait au fond de lui. Est-ce que ce qu'on possède vaut davantage à nos yeux que le fait de suivre Jésus ? Ben évidemment, la première réponse, c'est non. Ben, ce n'est pas religieusement correct. Mais je vous invite à faire une introspection, à regarder au fond de vous, à analyser, à réfléchir. à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Peut-être pas sur le coup, mais après, se poser dans son fauteuil, un petit café, un petit thé ou autre chose. Un thé froid. Et réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a dit, à ce qu'on a pensé, à ce qui a motivé nos peurs, notre colère, notre joie, nos frustrations, de savoir pourquoi elles sont là. Paul en fait l'expérience et il en est pleinement satisfait. Je crois qu'il était bon à identifier. C'était peut-être le bon terme. J'imagine, d'accord. Je pense qu'il était bon à identifier les éléments qui l'éloignaient de la dépendance à Dieu. Et qu'il était bon à valoriser les éléments qui lui permettaient de dépendre de Dieu. Au point de pouvoir dire, je n'ai pas besoin de cette vie. Mourir, rejoindre Dieu, c'est un gain. Mais, allez, j'accepte de rester sur cette terre parce que vous avez besoin de moi. Parce que Dieu veut m'utiliser pour vous rendre fier de lui. Il était pleinement satisfait de sa situation. Alors qu'il était en prison, alors que dans les églises qu'il avait fondées, il y avait des choses qui partaient complètement en vrille, il était satisfait, en paix. Le deuxième aspect, c'est celui de cultiver la confiance. Je n'ai pas mis en Dieu, j'aurais dû mettre en Dieu, parce qu'il y a plein de types de confiance. Cultiver la confiance en Dieu. Et une histoire de la Bible qui me rejoint quand je pense à ce thème, à cet aspect, c'est l'histoire de Joseph. C'est un jeune homme qui fait des rêves bizarres. Il s'y voit supérieur à sa famille, qui s'incline devant lui ils sont là sous forme de gerbes de blé, d'étoiles, et de lunes et de soleil. Ses frères ne l'aiment pas et le font passer pour mort en le vendant à des marchands d'esclaves. Il atterrit ensuite chez Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien, qu'il sert bien, et en retour, il l'apprécie. Mais ça ne dure pas. Il est faussement inculpé pour tentative de viol et finit à nouveau en prison. Il s'en sort grâce à un vigneron qui parle de lui au pharaon, et cela lui permet de devenir l'homme le plus puissant d'Égypte, après Pharaon. Tout ça parce qu'il a interprété deux rêves. Voilà. Une belle histoire. C'est digne d'un film, hein, franchement. Vous aimez les films ? Il y en a parmi vous qui aiment les films, qui aiment bien regarder un bon film. Magnifique. On va s'entendre alors. C'est facile quand on sait la fin. On sait que Joseph a sauvé sa famille de la mort. Et puis, des centaines d'années plus tard, ben, c'est un peuple entier dans un pays et que Dieu leur a donné. Et dans un film aussi, souvent, on sait la fin. Ça dépend des réalisateurs. Il y en a qui aiment bien jouer avec nos nerfs et qui nous font vivre des sales émotions. Et jusqu'à la fin, on espère, on dit « c'est bon, ça va tourner ». Ah ben non, ça ne tourne pas. Mais dans la majeure partie des cas, ça tourne bien. Ça se passe bien au début, il y a une difficulté. Nos émotions, elles font les montagnes russes. Et puis ensuite, à la fin, tout s'arrange. Et c'est magnifique. Facile quand on sait la fin, quand on a cet espoir, cette connaissance de l'avenir. Mais quand on ne l'a pas, c'est plus compliqué. Et je pense que Joseph ne l'avait pas. Même s'il faisait des rêves, je pense que des gerbes de blé qui s'inclinent autour d'une autre gerbe, c'est difficile de savoir ce que ça va donner. Donc j'imagine que Joseph devait être difficile de vivre ce qu'il vivait, d'être trahi par ses propres frères. C'est même pas des ennemis, c'est des frères. D'être accusé de viol alors qu'on fait tout juste et on se fait jeter en prison. La prison, ça devait être humide, froid, sombre, rempli de personnes malfaisantes. Alors qu'on a fait tout juste. Moi, je trouve ça que c'est vraiment pas correct. C'est pas normal. J'imagine la colère, la crainte. J'imagine ouais, tout ce qui doit passer par sa tête. Et pourtant, il a gardé cette confiance en Dieu. Il a gardé cette assurance que Dieu était avec lui. Et chacun d'entre nous, on vit des situations comme ça. On est en difficulté, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que chaque difficulté qu'on vit aura son happy end, comme dans les films ? Est-ce qu'on arrive à maintenir notre confiance en Dieu sans connaître la fin, sans connaître la suite ? C'est difficile. Et pourtant, c'est ce à quoi j'aimerais nous encourager. C'est ce à quoi l'histoire de Joseph et bien d'autres nous encouragent. C'est que Dieu agit. À un moment ou un autre, il agit. Et nous pouvons faire abstraction des circonstances pour demeurer dans sa paix, demeurer dans la confiance, en étant assuré de qui Dieu est. Mais ça demande la persévérance. Ça demande de cultiver cette confiance. De la notion de cultiver, il y a la notion d'action, il y a la notion d'entretien. Il n'y a pas la notion d'attente. D'attendre que ça se passe. Que ça vienne comme ça, dans un claquement de doigts. Non, c'est une démarche. Et pour illustrer ça, je vais répondre à un troisième point, qui est la notion de cultiver sa relation à Dieu. Et quand je pense à relation à Dieu et le fait de la cultiver, moi, celui qui me parle le plus dans la Bible, c'est le roi David, au travers des psaumes qu'il a rédigés. J'ai tellement souvent pu m'identifier à ses ressentis. Il est tellement authentique. Il l'interpelle en toute occasion, qu'il soit dans la joie ou dans la détresse. Il lui témoigne de sa reconnaissance ou il se lamente. Mais dans tous les cas, il lui parle. Il cultive sa relation avec Dieu. Il ne l'exclut pas et le fait participer à tout ce qu'il vit. Il ne regarde pas à soi-même pour trouver une solution. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'est pas le centre de sa vie, que ça ne tourne pas autour de lui. Et j'ai pris le psaume 13, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais celui-là est beau. Au chef de cœur, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je perçois énormément de questions, énormément de doutes chez David. Et pourtant, malgré ces doutes, il se ressaisit et termine ce psaume par proclamer la vérité. Dieu m'a fait du bien. Je sais qu'il est bon. Actuellement, je me sens abandonné. Mes circonstances font que je me sens abandonné. Mais la vérité n'est pas celle-ci. La vérité, c'est que Dieu m'a fait du bien. Et s'il m'a fait du bien, il peut encore le faire. Il le fait encore. C'est ça, je crois, la pensée de David. Il se positionne face à ses pensées qu'il assaille, il les identifie, il les nomme, il nomme ses questions. Et ensuite, il proclame la vérité. Ça lui permet de tester les pensées qui l'envahissent et d'éliminer celles qui sont mensongères. Parce que l'enjeu est là, de discerner ce qui est mensonge et ce qui est vérité. À force de laisser une pensée venir s'ancrer en nous, elle finit par nous influencer. Par exemple, si l'on ressent tous les jours que nous sommes incompétents dans ce que l'on fait, que ce soit les études, au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de nos capacités physiques, indépendamment de ce à quoi elles servent, et bien cette pensée mensongère, elle finira par influencer notre perception de soi, mais également notre façon d'agir. Parce que si on se sent incompétent, on ne va pas mettre en avant cet élément-là. On va s'en priver. Et si on s'en prive, on va se dévaloriser. Et si on se dévalorise, on va s'enfermer. Et si on s'enferme, on va être frustré. Et si on est frustré, on va se mettre en colère. Ou être tellement attristé qu'on ne va plus parler. Et une fois dans cette attitude-là, le risque de se blesser ou de blesser les autres autour de nous, il est immense. Mais plus grave que cela, elle finit par influencer la perception que nous avons de Dieu. Elle fait que nous créons un Dieu à notre image. Pas Dieu tel qu'il est, non Dieu tel que nous le percevons. Combien de fois j'ai fait cette erreur ? De prier, de ne pas voir Dieu agir et de dire « Dieu ne répond pas ». Je détermine qui est Dieu. Je définis qui est Dieu. J'en fais mon Dieu. Et c'est faux, parce qu'il y a un seul Dieu. Il est le même pour chacun de nous. Peu importe la perception que vous en avez, elle peut être juste, certains éléments peuvent être justes, d'autres peuvent être faux. Il y a un seul Dieu. Comme David, je peux avoir l'impression que Dieu m'a abandonné. Eh bien non, c'est faux, parce qu'il a fait du bien. Sa parole en témoigne. Sa parole nous révèle cette vérité. Et en connaissant cette vérité, nous pouvons nous positionner face à ces pensées. Nous pouvons dire à toutes les pensées qui viennent dans notre tête, dans notre cœur, celle-ci est vraie, celle-ci est fausse. Mais ça nécessite une démarche de foi. Ça nécessite de cultiver cette relation à Dieu. Parce qu'on ne peut pas juste connaître Dieu simplement comme ça, en se posant sur une chaise et en attendant. Non, il faut connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, dans Jean, c'est écrit que la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut méditer cette parole de Dieu. Il faut la connaître. Il faut savoir ce qu'elle dit et la laisser nous influencer pour qu'elle détermine les pensées qui viennent à nous. Pour terminer, j'aimerais vous laisser avec ces trois points et vous inviter à retenir ce terme, cultiver. Cultiver, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sens de l'action, de se mettre en route, de ne pas attendre que Dieu fasse quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que la foi dépend de notre volonté et de notre action. Pas du tout. Mais notre responsabilité, c'est d'entretenir ce que Dieu nous donne. C'est de chercher à ce que Dieu agisse, chercher à ce que Dieu se révèle. La révélation n'est pas de notre ressort. La paix, la satisfaction n'est pas de notre ressort. Mais ce qu'on met en place pour cela, ça l'est. Ça, c'est notre boulot. Mais en aucun cas, ça vient déterminer notre foi. Je tourne un petit peu en rond. Retenons cette notion de cultiver. Pour veiller à ce que nos désirs ne nous submergent pas. La mort à soi-même. Il est important de considérer le plan de Dieu, de faire confiance à Dieu. Et il est important de ne pas délaisser notre relation à Dieu, mais de l'entretenir, entretenir ce lien qu'on a à sa parole, ce lien qu'on a avec le Saint-Esprit. Et tout cela malgré les circonstances. La réalité telle que nous la percevons humainement n'est pas forcément la réalité. Soyons comme Paul, rendons-nous compte que la vie est aussi après la mort, mais qu'il est bon de rester maintenant sur terre pour le progrès dans la foi et la fierté en Jésus-Christ. Parce qu'on a été fait par lui et pour lui. Il est notre raison d'être. Et j'aimerais vous inviter à prier, fermer les yeux et puis à prier. Seigneur, nous sommes fatigués de vivoter et d'essayer d'assouvir des désirs qui sont souvent inconsciemment mal placés. Nous sommes fatigués d'être attristés et baladés par des mensonges qui nous empêchent de te contempler. Il ne s'agit pas de résoudre ce problème à la force de notre volonté, mais de t'implorer de nous rejoindre. Saint-Esprit, transforme-nous. Révèle-nous que nous avons été faits par toi et pour toi. Nous décidons de croire que tu répondras. Nous ne savons pas comment. Tout ce que nous savons, c'est que c'est toi qui transformes et pas notre volonté. On se tourne vers toi, qui est la source de la vie et le centre de notre raison d'être. Amen.